sans interdit. Screaming Mad DJ, 7ème art, Shakti, si on sautait tout. Les gens de panique.
Sofa,
François-Xavier Descamps.
Ragoût de panique.
Chapitre 67. De la programmation dans les radios associatives et à Radio Panique.
Fin des années 80, la question du public cible fait l'objet de vives discussions à Panique. Définir le public cible est en effet la base d'une politique de programmation. Certains veulent désigner sociologiquement ou politiquement ce public, mais c'est un propos volontariste qui ne résiste pas à l'analyse. Chaque émission ou groupe d'émissions a son public. Le seul dénominateur commun des auditeurs de Radio Panique que l'on établit alors, c'est leur aversion pour les autres radios, les radios commerciales principalement. On dit « le public recherché par Panique est celui d'auditeurs ouverts, curieux, intelligents, critiques, éclectiques, aimant le brassage des cultures ». Un public sociologiquement transversal donc. Mais la programmation de fait comporte trop d'émissions spécialisées dans un seul genre musical ou dans une seule langue étrangère pour capter le public désiré de manière continue.
Est-ce que vous pourriez décrire une évolution des radios associatives, des radios d'expression, au niveau de leur programme ? Est-ce qu'il y a des évolutions repérables depuis le début des années 80 jusqu'à aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une évolution dans le sens aussi d'une meilleure programmation, d'une programmation de meilleure qualité, ou au contraire, est-ce un peu toujours la même chose depuis le début ?
Mais je crois que le problème, c'est que c'est tellement varié, le monde des radios associatives, qu'il est difficile de pouvoir donner une réponse globale là-dessus. Moi, j'ai l'impression que... Mais ça, c'est pas une question de contenu de programme, mais d'organisation, que... Ce qui s'est passé, c'est un petit peu, malgré tout, mais ça c'est logique, hein, une sorte d'organisation de plus en plus systématique de la programmation. Et que donc, dans un premier temps, mais ça, c'était les débuts de la radio. La radio émettait, et elle diffusait des choses, et puis les gens venaient, et puis ça s'enchaînait comme ça. Donc la logique de la grille, quoi, est une chose qui est apparue petit à petit lorsque les radios se sont organisées. Mais alors, à la limite, on rencontre là ce qu'on rencontre dans les grands médias aussi, c'est-à-dire que la grille finit par cadenasser la programmation, quoi. Et que si on n'est pas dans une case de la grille, ça devient tout un problème, parce que si tout à coup, il faut déborder 30 minutes parce qu'on a quelque chose à dire et que le suivant est là avec son émission, ça ne marche plus. Parce que c'est la grille qui impose sa dictature à l'expression de la radio. Alors bon, c'est juste parce que comme il y a beaucoup d'émissions, il y a beaucoup de demandes, ben il faut faire une place pour chacun. Mais en même temps, ça enlève... la spontanéité, le naturel, la qualité peut-être de l'expression et de la communication au détriment d'objets formatés hein, qui sont l'heure ou les deux heures dans lesquelles on place son truc à tel moment de la semaine. Alors il y a eu notre élément quand même qu'on a vu apparaître, c'est que parallèlement à cette logique de la grille, on a réfléchi en termes de consommation du média de manière classique. Donc on a dit, sur certaines radios, il faut plutôt mettre en soirée tel type de programme, parce que ça, ça correspond plutôt à ce que les gens pourraient attendre en soirée. Par contre, le week-end, on a classifié les programmes, par exemple, souvent les programmes, je crois, plutôt pour les communautés étrangères, c'est plutôt le week-end souvent qu'on les met, enfin dans certaines radios. C'est plus facile de faire ça que d'avoir un responsable de la programmation qui doit gérer des conflits en permanence parce que tout le monde veut faire de la radio spontanée. Je pense aussi que, mais ça on glisse tout à petit vers des questions liées à la création et la production radiophonique, il y a eu dans certaines radios associatives une volonté de concevoir des programmes qui étaient de plus en plus travaillés, notamment en termes de post-production, des choses comme ça, et donc qui n'étaient pas simplement de la radio spontanée, qui étaient de la radio construite. Et ça, au début, il n'y en avait pas beaucoup. Et c'est venu petit à petit avec le temps, comme une sorte, mais ça, il faut savoir s'il faut l'appeler comme ça, d'émergence, entre triple guillemets, d'un professionnalisme, est-ce qu'il faut l'appeler comme ça? Ça, c'est la grande question. Hein, ou d'un sérieux, ou d'une volonté de trouver des normes techniques ou un langage qui était un peu équivalent à celui qu'on trouvait sur les autres médias. Hein. Et donc, ça c'est vrai que c'est une évolution. Je pense que la qualité des productions radiophoniques était beaucoup moins bonne il y a 10 ans ou 15 ans que ce qu'on entend maintenant, enfin pour ce qu'on peut entendre.
Et en général, les radios associatives sont plutôt des radios de programme.
Elles sont plutôt des radios de programme, bien qu'il y ait des exceptions. Elles ne sont pas toujours entièrement des radios de programme. Je pense que ce soit sur Radio Panique ou sur Run ou sur Radio Campus, il y a quand même pas mal de bandes non-stop qui tournent. Mais je dirais qu'elles sont des radios de programme au départ pour raison de contraintes internes. Plutôt que de vocation radiophonique, c'est-à-dire que fonctionnant sur une base de bénévoles qui font des émissions qui ne peuvent pas consacrer tout leur temps à ça, eh bien, on a décidé de faire une grille qui rencontre le mieux ce mode de fonctionnement et donc qui alloue à chacun un temps d'antenne par semaine, quoi. Donc ça, je pense que c'est plutôt par contrainte interne que par une réelle volonté, bien que au fil du temps, c'est devenu une réelle volonté et une affirmation d'avoir cette espèce de diversité qui entraîne évidemment une écoute active, c'est-à-dire la nécessité pour l'auditeur de savoir qui l'écoute et ce qu'il écoute et de se poser des questions sur ce qu'il écoute, savoir s'il aime bien ou s'il va aller voir ailleurs. Plus une entité de temps découpé se donnera une identité propre et un sentiment vraiment de cohésion, plus elle impliquera une écoute qui est vraiment... On écoute Rock Minute Soup, à la limite on écoute plus Radio Campus, on écoute Rock Minute Soupe.
Oui, donc le modèle de radio de programme vise absolument une écoute comme activité de l'auditeur, au contraire de la radio de flux.
Oui, bien que c'est vraiment la radio de programme et la radio de flux sont deux idéaux types, comme on dit en sociologie, c'est-à-dire que ils sont jamais vraiment, on les rencontre pas vraiment dans la réalité, c'est des modèles. Puisque même sur l'RTBF, par exemple, on a une grille de programmes sur la première, par exemple, mais avec des programmes qui peuvent s'enchaîner de manière très, très harmonieuse tout au long de la journée, ce qui fait qu'on peut rester sur la chaîne pendant toute la journée, quoi. C'est un peu, on regarde Les Cordiers jugés flics, on regarde pas TF1, donc c'est peut-être...
Ouais, c'est comme par exemple à Radio Panique, les émissions albanaises sont écoutées essentiellement par les Albanais, simplement parce qu'elles se passent en albanais, du moins la plupart, et dans les émissions musicales, pour les émissions qui n'ont pas un programme éclectique, mais qui sont fixées sur un style ou sur un genre musical, les gens qui demandent ça seront branchés, d'autres pas. Et donc, ça, c'est encore un autre modèle qu'une radio généraliste qui essaye quand même de retenir les auditeurs depuis le début de la journée jusqu'à la fin, comme oui. RTBF.
Vous voyez, les gens, en général, ils écoutent la radio en fond. Je crois que les gens qui écoutent Radio Panique, ils n'écoutent pas la radio en fond, ils écoutent la radio, quoi. Ils n'écoutent pas un bruit de fond, quoi.
Ils n'entendent pas la radio, ils l'écoutent.
Voilà, c'est ça.
Et ce qui fait aussi que ce n'est pas une radio qu'on écoute tout le temps. Hein, c'est une radio qu'on écoute, et puis bon, il y a quelque chose peut-être qui ne convient pas, on passe à quelque chose d'autre, et puis on la réécoute. On n'est pas accro à cette radio, ça me plaît beaucoup.
Mm-hmm. Moi, je suis pour une mosaïque ultra diversifiée. Et puis de toute façon, je ne peux pas faire autrement, quoi. De toute façon, je suis obligé d'être multipartiste, je dirais. Mais en gros, on ne peut pas gérer cette radio comme on gère une radio commerciale. C'est-à-dire que maintenant, si j'ai un super bon projet et qu'il n'y a pas la place pour ce projet, on va essayer de la trouver, mais je ne peux foutre personne dehors ni faire un échelonnement de valeur par rapport à d'autres émissions, quoi. J'essaie de les regrouper par affinité et tout, mais c'est assez complexe parce que, par exemple, en musique électronique, je vais essayer que ça se suive, etc. Mais en même temps, je ne vais pas les mettre tous le même soir parce que sinon, tu fais un ghetto, quoi. Donc, j'essaie quand même de trouver des affinités entre les émissions, mais je suis aussi tributaire de la grille qui existe déjà. Donc, c'est toujours une affaire de compromis puisqu'on ne peut pas... c'est ultra démocratique, donc il faut faire attention à ce qu'on fait, il faut pas blesser telle ou telle personne, puis il faut se dire que les gens ils sont bénévoles, donc en plus ils ont d'autres priorités au niveau temps, c'est-à-dire que par exemple telle personne elle travaille la journée, elle est dans l'impossibilité de faire une émission, moi je peux pas lui demander de quitter son travail pour faire une émission la journée, quoi. Donc c'est une affaire de compromis, de ressenti humain, etc., 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 quoi, en gros.
Quel est ton jugement comme ça sur la programmation de Panique? Est-ce que elle est artistique?
Artistique. Waouh.
il y a une partie d'artisanat, il y a une partie d'émission qui font des, mais qui sont, allez. Allez, très minime, quoi. Il y a très peu d'émissions qui font vraiment des émissions dites artistiques entre guillemets avec un grand A, quoi. Bon, sinon c'est, moi je trouve que c'est plutôt du ressort de l'artisanat parfois, moi je trouve aussi, et ce qui n'est pas mal. Il y a une autre tendance aussi qui est plus programmation populaire qui parfois prend un peu le pas sur tout, mais moi je trouve qu'il y a un assez bon équilibre, quoi. J'aimerais bien qu'il y ait plus d'émissions de culture artistique ou culture contemporaine ou bien de culture de tout ce qui est mouvance musique électronique ou documentaire des vrais documentaires radiophoniques. C'était des références comme les documentaires, comme les anglais, ou etc. Mais ça, il vous faudrait beaucoup d'argent. Et on n'a pas beaucoup pour le moment. Note bien le fait qu'il y ait un équilibre comme ça, qu'il y ait pas beaucoup d'argent. Parfois, ça ça peut créer certaines choses qui sont pas mal.
Depuis quelques années, Panique diffuse et rediffuse souvent un certain nombre de réalisations dites de création, qu'elles soient réalisées à l'intérieur de la radio ou même très souvent réalisées par des producteurs indépendants extérieurs à la radio. Comment tu vois, tu perçois la coexistence entre ce type de programme qu'on serait peut-être plus habitué à entendre sur France Culture ou parfois sur le troisième programme de la RTBF avec tout le reste de la programmation?
Ah, moi je trouve ça très bien quoi, parce que pour moi création radio ou musique alternative, on nage un peu dans les mêmes eaux, même si c'est des choses tout à fait différentes. Parce que par exemple maintenant un DJ, pour moi quelque part c'est pas considéré comme de la création radio, alors qu'ils en font toutes les semaines en real time quoi et en live quoi. Pour prendre des
émissions, explique un peu comment ils font de la création.
Par exemple Electrosold, ils vont prendre des musiques électroniques, ils vont prendre des vieux disques et ils vont reformater ça d'une telle façon que pour moi c'est de la création radio, parce que en temps direct en plus, sans justement imaginer un support CD ou quoi, donc ils peuvent se planter à tout moment, et d'ailleurs ils se plantent mais on s'en rend même pas compte parce qu'ils rattrapent le truc au fur et à mesure de l'expérience et tout. Mais pour moi, jouer avec des platines aujourd'hui, bon, ça a plusieurs niveaux parce que ça a pris une telle ampleur qu'on peut arriver à des gars qui jouent avec des platines mais qui font plus qu'un beat de 120 BPM pendant 1h30 et que c'est considéré comme de la création. Pour moi, c'est un peu limite parce qu'on peut très bien mixer de la musique très commerciale dans le beat, etc. et tout ça. Mais pour moi, c'est pas loin de la création radio. Je trouve que c'est une très très belle cohabitation. Par contre, où la création radio passe en général, à savoir comme tu dis, France Culture, service public et tout, je trouve que c'est eux qui sont dans l'erreur de faire passer ça à côté de trucs qui pour eux ne représentent qu'une certaine façon de faire de la radio quoi. Pourquoi est-ce qu'on met de la création radio qu'à côté de musique de jazz ou de musique classique quoi? Pourquoi, alors que la création radio, c'est quelque chose qui est en perpétuel mouvement, qui normalement devrait être quelque chose d'assez novateur, pourquoi on ne le fait pas le passer à côté de choses aussi novatrices? Donc là aussi, on pourrait se demander, mais pourquoi France Culture, ça passe toujours là, et pas dans... Pourquoi France Culture, il ne passe pas d'autres musiques? Pourquoi il ne s'ouvre pas à d'autres styles musicaux, plus underground, etc.? C'est dans ces milieux-là, il y a un potentiel de créativité radiophonique inestimable, souvent sous-estimé, quoi.
Mais est-ce que cette coexistence de deux types de création à l'intérieur de Panique provoque des échanges intéressants entre les réalisateurs des deux types de création, ou bien est-ce qu'ils restent simplement coexistants à l'intérieur d'une programmation? Parce que nous avons une volonté de faire comme ça. Est-ce que ça crée réellement des échanges? Est-ce qu'on apprend? Est-ce que les uns apprennent des autres ou pas?
Ça reste limité, mais je crois qu'il y a de l'espoir.
Sur Run, par exemple, on est arrivé à concevoir une grille organisée par jour et il y a des soirées thématiques. Donc le lundi, c'est la soirée World Music, enfin, avec tout ce qui est musique un peu du monde. Le mardi, c'est soirée rythme, donc tout ce qui bouge un peu. Ça va du jazz à la techno, évidemment. Le mercredi, c'est soirée pop rock, etc. Sur campus, il y a une autre réflexion, c'est plutôt d'organiser la grille de manière horizontale, c'est-à-dire... À 23h30, tous les soirs, on sait qu'on a une émission de mix. Et on essaye aussi, tant bien que mal, d'avoir cette même cohésion dans le reste de la grille, bien que ce soit beaucoup plus difficile, parce que pour une radio qui est déjà assez ancienne, les animateurs sont bien installés dans leur créneau horaire et c'est parfois difficile de changer. Pour contrecarrer le fait qu'on a des émissions hebdomadaires, ben, on essaye de mettre dans la grille des émissions quotidiennes, qui sont un peu plus généralistes, qui viennent un peu des magazines, agenda culturel.
Oui, c'est Jardin Public, c'est ça, oui. À Panique.
Et donc, moi, j'ai constaté à Campus, quand je suis arrivé, que ces émissions étaient un peu sous-investies. C'est-à-dire que finalement, les animateurs qui les faisaient passaient un peu ce qu'ils voulaient. Il n'y avait pas du tout de souci de cohésion d'une émission à l'autre, d'un jour à l'autre, alors que ça devrait être justement... un point de repère dans la grille et fixer les auditeurs sur une pratique quotidienne de l'écoute de telle ou telle radio. Parce que c'est vraiment ça qui manque pour moi aux radios associatives, c'est que dans une grille hebdomadaire, ben, il est impossible de fidéliser les auditeurs parce qu'il est impossible de leur fixer rendez-vous une fois par semaine. Ça, c'est clairement hors de portée.
Est-ce un objectif pour une radio associative de fidéliser l'auditeur ?
Ben, ça, tout, ce qu'on a, tout, tout dépend de ce qu'on entend par fidélisation. Je pense que ce serait vraiment, à mon avis, vraiment quelque chose de très très bien qu'on ait des auditeurs fidèles et un gros réservoir d'auditeurs fidèles. Je pense que ce serait d'abord un encouragement et une force dans laquelle les animateurs et les gens qui font la radio quotidien peuvent puiser et en tirent vraiment quelque chose, une énergie très importante. Et en même temps, ça leur donnerait plus de force aussi dans leur combat quotidien pour la survie. À ce moment-là, on ne parlerait plus de survie.
Il y en a qui disent que, par exemple, la panique, je parle de panique, il y en a qui pensent que ce qui fait un des charmes de panique et qui provoque peut-être une certaine fidélisation, c'est justement que le programme est explosé en mosaïque qui reflète donc une grande pluralité de genres musicaux, mais aussi une grande pluralité même d'opinions philosophiques, enfin ça c'est un grand mot, politique.
Oui, enfin, par rapport à ça, moi je... J'ai longtemps des opinions très très tranchées et maintenant ça s'émousse un petit peu. Au départ, j'étais très 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 soucieux d'avoir quelque chose radiophoniquement écoutable, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, le modèle dominant de la radio, de la pratique radiophonique, c'est le modèle de radio de flux. Si on est trop loin de ce que les gens peuvent accepter, ben on ne les touchera pas et on va être contre-productif. Je pense que quelque part, pour être vraiment subversif, parce que soyons honnêtes, c'est vraiment de ça qu'il s'agit, c'est de une certaine forme de subversion, de renversement de l'ordre établi. Il faut mettre un peu d'eau dans son vin pour avoir plus d'effet. Il faut peut-être essayer d'attirer un peu plus l'auditeur, le rapprocher de ce qu'il connaît et de lui donner des repères, quitte à mieux le renvoyer vers des choses. Donc je dirais qu'il faut tenir compte du contexte dans lequel on fait de la radio. Je pense que ça, c'est vraiment pour moi très très important, c'est que un programme de radio, ce n'est pas simplement du son qui passe quelque part, c'est reçu, c'est un transistor, c'est des ondes qui passent, c'est des gens qui sont à l'écoute à un certain moment, dans un certain contexte. Et il faut vraiment, au maximum, tenir compte de ce contexte pour pouvoir toucher son auditeur. Sinon, pour moi, sinon, c'est pas de la radio, enfin, c'est nier tout un phénomène qui est là. Et on ne peut pas nier ce phénomène de radio qui pour l'instant est un nivellement par le bas de l'investissement de l'écoute.
Ben oui, justement, est-ce que...
Il faut en tenir compte pour mieux le combattre.
Mais en tenir compte, est-ce que cela veut dire le mimer quelque part dans les radios associatives ? Donc, rechercher la fidélisation par une écoute inactive, en quelque sorte.
Non, certainement pas. Donc, je pense que, de toute façon, le mimer, ça a ses limites, vu que, de toute façon, ce serait impossible à faire en une radio associative, puisque ça imposerait une trop grosse contrainte aux gens qui font ça bénévolement, et ils s'en iraient voir ailleurs, ou ils feraient autre chose.
Ils ont peut-être envie aussi de faire autre chose que... une entreprise, une usine à fidélisation quand ils viennent dans
la radio. Oui, tout à fait, mais je pense qu'il y a une fidélisation qui doit se faire, et je pense qu'elle se fait surtout par l'esprit. Donc je pense que vraiment, autant à Campus qu'à Panic ou qu'à Run, il y a un esprit qui transcende un peu les programmes, et bon, c'est un esprit vraiment, vraiment, je trouve intéressant, parce qu'il n'y a aucune contrainte, ni d'un pouvoir étatique qui va imposer ses vues, ni, euh, ni d'un, de la logique du marché qui va aussi imposer peut-être de manière encore plus contraignante ses vues. Et donc il y a vraiment là une zone de liberté d'expression, ça c'est indéniable, et c'est là-dessus à mon avis qu'il faut fidéliser. Et le but ultime pour moi n'est jamais la radio en soi, bien que ce soit vraiment très gai, moi je prends beaucoup de plaisir à faire des programmes, etc., mais pour moi l'objectif ultime c'est pas la diffusion des programmes. Les programmes sont un moyen. Pourquoi? Un moyen d'éducation permanente, sans doute, des auditeurs, dans un objectif ultime qui est la diversité du paysage radiophonique, qui est quelque chose de tout à fait crucial à notre époque, et l'esprit critique de l'auditeur. Donc ça, c'est vraiment deux choses qui sont pour moi des étendards, je vais dire. Les radios associatives sont au service de ces étendards, donc elles sont, c'est vrai, condamnées à faire quelque chose de différent de ce qui se fait, et c'est leur raison d'être, quoi. C'est la différence.
Donc vous pourrez peut-être parler de la possibilité ou de la nécessité de réfléchir à un flux alternatif par rapport au flux dominant tel que on le perçoit chez Contact, par exemple. Il y aurait possibilité, il y aurait nécessité à rechercher une sorte de format, pour reprendre ce terme-là, de radio associative, qui soit à la fois un flux, avec ses points de repère et ses coulées repérables, et alors les investissements dans des programmes plus particuliers.
Tout à fait, mais je pense que ça existe, hein. Radiophoniquement, ça existe, c'est pas les associatifs, mais c'est par exemple le MOOV, la radio jeune de Radio France, qui a un contenu vraiment riche, intéressant, dans un format radiophonique très, très travaillé, très étudié. Au niveau des radios associatives, est-ce que c'est possible, ça, sur une radio associative? Ben, tout dépend de... Ça, c'est vraiment une question. Bon, ça, je pense qu'il faut, pour y répondre, il faut refaire la jeunesse de la motivation des gens à faire de la radio au titre bénévole. Je pense que Marcel, tu sais aussi bien que moi ce qu'elles sont, hein. C'est généralement des gens qui, au départ en tout cas, ont un intérêt plutôt musical, hein. Ils ont une bonne discothèque chez eux, ils voudraient en faire profiter les gens, et ils viennent sur antenne pour une heure ou deux par semaine diffuser leurs disques. Ça, c'est la première étape. Après, par contact avec d'autres, par approfondissement un peu, par intérêt aussi, parfois, ils s'intéressent plus aux formes qu'au fond, et ils se disent qu'ils pourraient investir un peu sur les formes. Et ça devient un vrai produit radiophonique. Mais c'est pas vraiment la règle dans les radios associatives. Enfin, ça, je vais rien t'apprendre. Mais le modèle du bénévole dans une radio associative, c'est plutôt la personne qui vient dans sa routine mettre ses disques une fois par semaine, sans se poser plus de questions, et sans participer plus avant, et sans se poser plus de questions sur la manière dont ça roule en dehors de son petit créneau, quoi.
Et que personne ne l'oublie.
Ouais, moi j'ai toujours aimé la diversité musicale, quoi. Et d'ailleurs, il y a eu longtemps, pendant des années, très peu d'émissions comme ça. Et ces dernières années, il y en a eu 2-3 en plus, et ça me fait plaisir, quoi, d'entendre des gens qui peuvent passer aussi bien du rock que du reggae, que de la musique électronique, qui peuvent passer d'un style à l'autre, quoi.